CFM en Tarn-et-Garonne, le MAG.
Bonjour tout le monde, merci d'écouter CFM Radio. On est jeudi le 26 mai et on retrouve donc Kader Youb pour Politiquement Votre. Bonjour Kader.
Bonjour Aurélien, bonjour à tous.
Notre invité aujourd'hui, Valérie Rabault.
Oui, Valérie Rabault, députée PS, présidente du groupe, socialiste à l'Assemblée nationale. Notre invité aujourd'hui, bonjour Valérie Rabault.
Bonjour Kader Youb.
Bienvenue à vous sur CFM Radio. Vous vous présentez donc à une nouvelle mandature en tant que député. Vous aurez face à vous Ghislain Descazeaux, Dylan Perrineau, Chafik Benchekroun, Laurent Lafont, Jean-François Griot-Desfontaines, Luc Française-Charlot, Catherine Simonin, Claude Vigouroux, Richard Blanco, Pierre Poma. Ça fait beaucoup de monde sur la ligne de départ. Un mot, Madame Rabault, si vous le permettez, sur cette affaire qui secoue le monde politique et notamment le gouvernement. Après un premier quinquennat lors duquel il s'est régulièrement retrouvé en difficulté sur la question des droits des femmes, le président de la République entame le second en étant à nouveau sur la défensive sur ce sujet, alors qu'il a affirmé pendant la dernière campagne présidentielle vouloir refaire de l'égalité femmes-hommes la grande cause de son nouveau quinquennat. D'après vous, est-ce que Damien Abad peut et doit rester à son poste à peine nommé?
Alors, moi, je suis toujours... D'ailleurs, vous me connaissez depuis longtemps. Oui. Je ne commande jamais de décision de justice, parce que d'abord, on ne sait pas, par définition, la justice...
Elle n'a pas eu lieu, elle n'a pas tranché.
Alors, je crois qu'il y a des décisions qui avaient été rendues en 2017, mais je vous avoue que je n'ai pas trop suivi. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que la présomption d'innocence soit protégée, bien évidemment. Mais j'imagine que le président de la République, avant de faire les nominations, il fait un certain nombre de vérifications. Enfin, en tout cas, et la première ministre aussi. Bon. S'il avait eu des alertes avant, peut-être qu'il aurait dû appliquer un principe de prudence. Parce que, effectivement, je vois bien qu'il voulait afficher une prise avec le président. Parce que Damien Abad est président, président.
C'est votre homologue.
C'est mon homologue à l'Assemblée nationale pour le groupe LR. Bon, voilà. Mais on ne peut pas. Dans les priorités qu'on doit avoir, la défense des femmes doit être une priorité absolue, plus que peut-être faire un coup politique. Donc, s'il avait eu des informations avant, j'imagine qu'il a dû peser le pour et le contre, et que, à mon avis, il aurait dû être un petit peu plus prudent. Maintenant que la nomination est faite, effectivement, on est dans un autre champ, puisque la présomption d'innocence doit être protégée, et en même temps, la justice doit pouvoir, évidemment, rendre toutes les décisions qu'elle sera amenée à prendre. Donc voilà, je pense que si, comme la presse le dit, il avait été informé auparavant, il aurait dû être un petit peu plus prudent, et éviter de donner un message qui, d'emblée, dès la première semaine du nouveau gouvernement, brouille quand même sacrément les objectifs qu'il affiche vouloir défendre en matière de défense des droits des femmes.
C'est surprenant.
Mais c'est un peu surréaliste, en fait. Je suis d'accord avec vous.
C'est surprenant, en fait. Bon, effectivement, Mediapart dit, et d'autres associations qui prônent l'égalité entre les femmes et les hommes, disent que Matignon avait connaissance de cette information.
Je ne sais pas s'ils avaient connaissance ou pas. J'ai entendu dire que j'entends ce que vous dites. Mais si c'est le cas, il a été très imprudent.
Ouais. Vous êtes sur la même ligne que Jean-Pierre Raffarin, mais lui, il nuance un peu son propos. Il dit qu'il faudrait légiférer rapidement, justement, pour prévenir ce genre... Parce que force est de constater que ces cas se multiplient.
Alors que la justice ait insuffisamment, des moyens insuffisants et qu'elle rende des décisions trop tardives du fait de cette insuffisance de moyens, c'est vrai. On est bien d'accord. Mais là, dans le cas présent, s'il y avait eu une alerte, je suis étonnée qu'elle... Enfin, en tout cas, personnellement, je trouve très surprenant qu'elle n'ait pas été prise suffisamment au sérieux.
Un autre sujet, Mme Rabault. Que pensez-vous de la nomination d'Elisabeth Borne? Mais avant de répondre à ces questions, on vous connaît, on sait que vous n'êtes pas une mythomane, ça se saurait. Vous avez indiqué que Emmanuel Macron vous avait proposé le poste de Première ministre avant Elisabeth Borne.
Je n'ai rien indiqué du tout, j'ai répondu à vos confrères.
Oui, vous avez dit que...
J'ai répondu à vos confrères de BFM qui m'ont dit « j'ai une nouvelle de l'Élysée, on me dit qu'on vous a approché pour Matignon et que vous auriez... » Je vous dis la question qui m'a été posée, à laquelle j'ai répondu, et que vous auriez refusé. J'ai répondu à votre consoeur de BFM, le plus simple est que vous demandiez à l'Élysée. Elle m'a répondu, c'est ce que j'ai fait. Je lui dis, donc vous avez la réponse. Et là, elle me redemande pourquoi j'aurais refusé. Oui, et voilà. J'ai expliqué que c'était parce que je ne voulais pas mettre en place une réforme des retraites, repousser l'âge à 65 ans de l'âge de départ à la retraite, parce que je ne suis pas d'accord avec ça.
Bah, on va y revenir sur la retraite, mais vous avez refusé uniquement pour cette réforme à venir.
Mais cette réforme à venir, c'est la seule réforme qui soit dans le programme du président de la République. Moi, j'en ai pas vu d'autres.
D'accord.
En tout cas, celle-ci, elle est chiffrée. Et ce qu'elle montre, c'est qu'elle dégage 15 milliards d'euros de recettes. Donc, ça veut dire deux choses que j'ai écrites début avril dans une tribune qui est parue dans le JDD.
Oui,
ça veut dire deux choses. C'est que cette réforme n'est pas nécessaire pour préserver le régime des retraites qui fonctionne et que cette réforme va dégager 15 milliards d'euros de recettes. Donc, c'est bien qu'on va faire payer aux personnes qui ont l'espérance de vie la plus courte la réforme des retraites et le fait qu'on fasse rentrer de nouvelles recettes dans les caisses de l'État. Et ces personnes, ce sont celles qui gagnent le moins et qui, par définition, sont souvent des personnes qui ont eu des professions très exposées qui font en sorte que leur espérance de vie est plus courte. Et bien moi, je suis en total désaccord avec ça. Total désaccord.
Madame Rabault, le président de la République, dans l'entre-deux-tours, il avait introduit la question de la pénibilité.
Introduite puisqu'il l'a supprimée en août 2017.
Il souhaitait donc réintroduire, si vous voulez. Il avait changé d'avis. Mais ça veut dire qu'il pouvait bouger sur cette réforme-là. Mais, vous auriez pu, vous, en entrant au gouvernement, en étant chef du gouvernement.
Ce que j'ai dit aussi à mes interlocuteurs, c'est que je ne comprenais pas pourquoi ils ne gardaient pas Jean Castex comme Premier ministre jusqu'aux élections de juin. Et que sur la base de la majorité qui va se dégager à l'Assemblée nationale au mois de juin, il puisse y avoir la nomination d'un nouveau gouvernement. Moi, je souhaite que cette majorité, elle puisse être de gauche, qu'elle regroupe largement les forces de gauche et qu'elle puisse, dans le fond, créer un vrai contre-pouvoir.
On va en reparler de cette union à gauche et de la nouvelle union populaire écologique et sociale. Vous ne m'avez pas répondu sur Elisabeth Borne, mais je ne vous ai pas laissé le temps de le faire. Qu'est-ce que vous en pensez d'Elisabeth Borne? Est-ce que c'est une femme de gauche, au fond?
Je ne sais pas parce qu'elle a mené des réformes de droite. Je pense qu'elle a effectivement une culture à gauche. Mais au cours des 5 dernières années, elle a vraiment mené des réformes à droite. C'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps puisque nous avons fait la même école d'ingénieurs et que je la connaissais bien avant qu'elle entre en politique. Donc c'est quelqu'un de très travailleur, de sérieux, qui ne sera pas dans la petite phrase parfois. Ce que j'aime pas non plus dans la politique, qu'on fasse de la politique politicienne, ça m'intéresse pas. Maintenant, je suis pas sûre qu'elle ait les coups des franches pour pouvoir appliquer un programme qui serait le sien. Puisqu'elle a été nommée par le président de la République pour appliquer le programme du président de la République. Quand je vois qu'elle n'a même pas pu choisir son directeur de cabinet, j'ai tendance à me dire qu'elle n'aura pas trop les coups des franches. Donc, je suis pas certaine qu'elle mette. Enfin, je suis à ce stade certaine qu'elle ne va pas mener une politique de gauche.
Comment vous avez réagi, vous, Valérie Rabault, présidente du groupe PS à l'Assemblée nationale, à l'annonce de l'accord entre la France insoumise, le Parti communiste, le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts?
Alors, je vais prendre deux casquettes. Ma première casquette, c'est celle de présidente de groupe. J'observe que dans les autres groupes, tous les sortants ont été inscrits dans l'accord. Dans mon groupe, il y a 4 députés sortants qui n'en font pas partie. Et je ne vois pas pourquoi ils en auraient été exclus. Donc ça, je le considère effectivement comme pas tout à fait logique. Et maintenant, si je réagis en tant que femme de gauche, je suis toujours ravie quand la gauche arrive à se réunir, parce que c'est comme ça de toute l'histoire, hein, depuis le Front populaire jusqu'à mai 81 et jusqu'à 97, lorsque...
Mais pas dans ces conditions.
Lorsque Lionel Jospin a créé la gauche plurielle, c'est comme ça qu'elle est arrivée au pouvoir. Mais la gauche plurielle, elle portait bien son mot, c'est-à-dire plurielle.
Oui, chaque entité gardait son autonomie.
Mais c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Je sais que la presse raconte beaucoup de choses, c'est toujours le cas. Si.
C'est pas la presse, Madame Rabault, si vous permettez.
Et parfois, c'est Carole, M. Mélenchon lui-même.
Carole Delga, c'est pas la presse. M. Cazeneuve qui démissionne, Sinédier du parti.
C'est pour ça que je vous dis que dans cet accord, il y a plusieurs choses. Il y a à la fois l'accord électoral qui vise à dire que on se marche pas sur les pieds, ce qui est plutôt intelligent et ce qui permet d'avoir la gauche représentée à l'Assemblée nationale dans toute sa diversité. Et après, il y a un accord qui va sur un certain nombre d'idées. Bon, moi, je trouve qu'un accord rédigé en une semaine, quand on voit que le programme commun a mis peut-être 2 ans à être écrit, ça me paraît plus compliqué. Même si, effectivement, il y a beaucoup de choses. Le SMIC à 1500 euros, je suis d'accord. Les lois El Khomri, leur suppression, je suis d'accord aussi. D'ailleurs, j'avais dit... Finalement, elle n'a pas été soumise au vote, puisqu'il y avait eu un 49-3. Mais en tout cas, moi, j'étais contre. Oui. Donc tout ça, on peut retrouver tout ce qui a été dit à l'Assemblée nationale là-dessus. Je ne change pas d'avis.
Je sais qu'elle avait procédé quelque part à votre prise de distance, en tout cas, avec elle.
Sur l'Europe, moi, je ne vais pas désobéir à l'Europe.
Oui. Mais c'est dans l'accord.
Bah, oui, mais je ne vais pas désobéir à l'Europe, parce que j'ai toujours été loyale et libre. Donc loyale à mes valeurs et aux engagements que je prends, et libre. Donc sur l'Europe, on peut parfaitement exercer un rapport de force. Je vais prendre un exemple très concret. Aujourd'hui, en Europe, le prix de l'électricité est indexé sur le prix du gaz, ce qui est un non-sens économique absolu. Nous, on produit l'électricité pas chère en France, pas chère au regard de ce qui se fait ailleurs, et on est obligé de l'acheter à un prix indexé sur le gaz, sauf pour les tarifs réglementés. Bon. Qu'ont fait l'Espagne et le Portugal ? Qui ont l'un, Pedro Sanchez, gouvernement socialiste, au Portugal, M. Costa, qui est aussi socialiste, les deux. Ils ont fait ça il y a 3 semaines. Ils ont dit, au sein de l'Europe, nous, on ne va pas indexer les prix de l'électricité sur le gaz. Est-ce qu'ils ont désobéi à l'Europe ? Non. Ils ont exercé un pouvoir, un rapport de force au sein de l'Union européenne. Et bien, c'est ça qu'il faut faire. Et j'aimerais que le président de la République le fasse. Et surtout que le prochain gouvernement le fasse. Parce qu'on va arrêter de payer des prix délirants pour l'électricité, alors que nous, on en produit beaucoup en France. Et il n'y a aucune raison économique qui justifie que ce soit indexé sur le gaz. Les Espagnols, les Portugais, qui ont à leur tête un gouvernement socialiste, l'ont fait. Et bien, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas le faire.
Mais restons sur cet accord-là. Vous êtes proche de Carole Delga, vous avez été sa directrice de campagne.
Non, mais je suis proche de Carole Delga, oui, bien sûr. J'étais porte-parole.
Vous étiez porte-parole, pardon. Voilà. Pardon pour vous étiez porte-parole de Carole Delga. Lorsque elle est vent debout contre cet accord, on ne comprend pas très bien, en fait. Est-ce que vous faites partie de l'accord Valérie Rabault, étiquette NUPS.
Mais il n'y a pas. Contrairement à La République En Marche, elle a créé une forme de label global qui a été enregistré en préfecture et enregistré auprès de la commission des comptes de campagne et qui s'appelle Ensemble.
Oui, Ensemble.
Bon. Est-ce que NUPS l'a fait, ça ? Non.
Non.
Donc NUPS n'a pas d'existence juridique qui serait équivalente à celle de Ensemble. Donc vous me demandez si je suis dedans, pas dedans, etc. Ça ne veut rien dire, puisque l'accord NUPES vise à dire chaque formation a ses candidats qui sont clairement identifiés. Donc le jour, si les Tarn-et-Garonnais me font confiance, et les Tarn-et-Garonnaises les 12 et 19 juin prochains, je siégerai au groupe socialiste. Et mes collègues Europe Écologie Les Verts vont pouvoir créer un groupe. Et mon collègue André Chassaigne, qui est président du groupe communiste, siégera au groupe communiste.
Vous lui dites ça, Carole Delga, par exemple, ce que vous dites,
mais
ce qu'on entend.
Je le dis tout le temps. Donc je peux pas être soit... Je comprends que certains ne veuillent pas l'entendre.
Vous lui dites ça.
Mais je lui dis aussi. Oui, bien sûr.
Elle n'entend pas parce qu'elle a pris une décision, je crois, hier ou avant-hier. Elle ira soutenir des candidats dissidents qui ne sont pas... qui étaient Parti Socialiste et qui ne sont pas dans la NUPES, et elle ira les soutenir. Quelque part, ça fait désordre. On sent quand même une cacophonie.
Il y a des dissidents, il n'y en a pas que chez les socialistes, il y en a ailleurs.
Oui, c'est tout.
Bah, sur 577, ce n'est pas étonnant qu'il y en ait quelques-unes, des dissidences.
Vous aviez co-écrit en 2014 avec Karine Berger, Yann Gallu et Alexis Bachelet, contre la mort de la gauche. Vous étiez quelque part, vous aviez senti ce qui allait se passer, malheureusement, pour vous, votre camp.
Oui. La gauche ne vit que par les idées. Ouais. Donc le jour où elle cesse d'en produire, elle se saborde elle-même. Et donc là, aujourd'hui, il y a énormément de choses à faire, de la planification. Vous voyez, il y a des entrepôts logistiques qui sont construits au sud de Montauban. Il n'y a pas un seul panneau photovoltaïque sur les toits. Bon, mais ça, c'est un non-sens absolu. On a déjà de l'artificialisation des sols, il faut y aller à fond. La capacité à faire de la planification écologique, c'est indispensable. Sinon, ça ne se fera jamais. J'observe que sur les 27 pays de l'Union européenne, ils ont tous pris des engagements pour produire des énergies renouvelables et qu'il n'y a qu'un seul pays qui n'a pas atteint ses engagements, c'est la France. 4 les ont atteints, 22 les ont dépassés. Donc là-dessus, la planification écologique, mais c'est indispensable.
Je reviens sur ce livre que vous aviez coécrit. Vous aviez émis quelques idées dans ce livre. Vous parliez de supprimer le Premier ministre et de et d'obliger les personnes à se syndiquer. Est-ce que c'est toujours dans votre esprit, dans votre philosophie, ou est-ce que vous avez évolué ?
Non, pense... moi, j'ai toujours été partisane d'un Parlement fort, et j'étais même plutôt sur une version 6e République. Maintenant, je conçois, et je me suis rendu compte au cours des années, que nos concitoyens veulent voter, veulent élire le président de la République au suffrage direct, très bien, mais on ne peut pas avoir deux têtes de l'exécutif. Donc là-dessus, effectivement, c'était une proposition que j'avais faite, qui à l'époque avait été mal vécue, parce que Manuel Valls l'avait pris pour lui. Bon, bah tant pis, hein, c'est comme ça. Mais je le pense sincèrement. Sur les syndicats, effectivement, je pense que ce serait bien que chacun puisse être syndiqué. Alors qu'évidemment, le syndicat de son choix, mais qu'on puisse avoir une vraie démocratie sociale.
Valérie Rabault, le temps passe malheureusement très très vite. Un mot sur ce conflit ukrainien, russo-ukrainien qui n'en finit pas et qui a des conséquences toujours plus importantes, en tout cas pour les pays européens, et notamment le nôtre, la France. Le prix du paquet de pâtes s'envole, l'huile, on n'en trouve pratiquement plus. Il y a certains restaurants qui refusent maintenant de ne plus faire des frites parce que l'huile est devenue rare, l'essence, n'en parlons plus. Est-ce qu'on a vocation à vivre tout le temps dans la crise, après celle du Covid ? Maintenant, c'est le conflit russo-ukrainien et ça a des répercussions très, très importantes sur le pouvoir d'achat. Qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous ?
Alors, sur ce conflit ukrainien, c'est un peuple libre,
oui.
Et libre, comme nous, qui a été attaqué sur le sol européen. Donc, il doit être défendu par les Européens. Et là-dessus, moi, je ne tergiverse pas sur ce point-là.
C'est-à-dire beaucoup plus de...
Envoi d'armes, vraiment soutien au peuple ukrainien. J'ai été la première à demander à ce qu'on bloque le fameux système SWIFT pour bloquer les transactions financières avec la Russie. Donc quand on se mobilise pour faire en sorte de bloquer véritablement, d'avoir une influence sur l'économie russe, il faut qu'on soit aussi en capacité, nous, les Européens, d'avoir des pare-feux pour les populations de notre pays.
Ce qui signifie d'avoir une résilience, on n'a pas cette résilience.
Non, mais c'est pas une histoire de, c'est aussi une histoire de résilience, mais c'est ce qui signifie, là, quand vous parlez de l'huile de tournesol qui manque, mais ça, c'est de la spéculation qui est engagée, puisqu'on est encore sur la production de 2021. Donc, c'est tous les mécanismes de lutte contre la spéculation qui doivent être déployés par le gouvernement, qui aujourd'hui ne le sont pas, et y associer un blocage des prix sur un certain nombre de produits de première nécessité. Et là, on aura, on sera en capacité de véritablement porter cette politique. Mais si, effectivement, dans une situation où on se prive d'approvisionnement, de quelques approvisionnements et pas de tous, et pas à la hauteur de ce que vous décrivez, si on ne met pas en place une mesure très forte sur les prix, vous avez évidemment des spéculateurs qui s'engouffrent dans cette brèche-là.
Si vous êtes élu, Valérie Rabault, au sort du second tour, ce sera votre priorité à l'Assemblée nationale ?
Ah, mais c'est le pouvoir d'achat.
Oui, ce sera le pouvoir d'achat.
C'est une priorité absolue. Et d'ailleurs, lorsque j'ai eu l'occasion d'échanger avec la majorité, je leur ai dit, je ne comprends pas pourquoi vous embarquez dans cette réforme des retraites, alors que la seule priorité, c'est le pouvoir d'achat et un vrai plan économique de souveraineté pour faire en sorte qu'on puisse encaisser le mieux possible ce choc-là.
Tout le monde est sur la même longueur d'onde. C'est vous qui porterez ce combat. Et d'ailleurs, si vous êtes élu, est-ce que vous serez toujours président du groupe ?
Ça, j'en sais rien, parce que c'est une élection.
Oui, d'accord, mais vous serez candidate,
C'est une élection, on verra.
C'est pas sûr, en tout cas.
Non, mais vous me demandez toujours de me projeter.
Oui, mais je vous projette parce que c'est...
Non, moi, je vis pas comme ça. J'essaie de mener les combats les uns après les autres.
Ouais. Sur le Tarn-et-Garonne, quel est le projet vous tient le plus à cœur ?
Alors, il y en a un qui me tient énormément à cœur, c'est sur l'école, puisque nous sommes derniers au bac, derniers au brevet depuis plusieurs années, derniers dans les évaluations. Que dès septembre dernier, une réunion a été organisée à Matignon avec l'inspecteur d'académie et le recteur pour qu'on puisse définir un plan spécifique Tarn-et-Garonne. Depuis, le Premier ministre a envoyé 3 inspecteurs généraux ici, qui ont fini leur mission, avec un certain nombre de propositions. Donc à la fois sur les collèges et sur la partie enseignement supérieur sur laquelle nous travaillons aussi au conseil départemental pour, avec l'État, ouvrir 2 IUT, faire en sorte qu'à l'ancienne gendarmerie, on puisse avoir un pôle de formation. Donc tout ça est en train de... Enfin voilà, ça c'est vraiment ce qui me tient à cœur sur la jeunesse. Aussi au conseil départemental, nous avons mis 700 euros pour les jeunes pour les aider à passer le permis de conduire, parce qu'on sait très bien que la mobilité est une vraie question dans notre département. J'observe d'ailleurs que d'autres candidats à cette élection législative législatives ont voté contre ces 700 euros, donc ça, il faut quand même le faire, mais qui se réclament de gauche. Hein. Donc ça, c'est vraiment le gros du gros, puisque le Tarn-et-Garonne, je vais prendre un exemple très concret, par rapport au nombre de bacheliers, on a deux fois moins d'offres post-bac que, par exemple, le Tarn ou d'autres départements. Donc ça veut dire qu'on prive la jeunesse de possibilités de se former et de découvrir sa voie.
Les IUT, ce sera sur quelle filière ?
Alors il y en aura une sans doute, service à la personne sans doute, et puis une autre qui est plus sur le volet informatique.
Vous parlez de service à la personne, vous aviez posé une question à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez répondu sur cette dernière question concernant les aides à la personne ?
Non.
Vous l'attendez, vous avez relancé ?
J'attends toujours, ah oui, je relance, vous savez le nombre de fois où je relance.
Ça se voit pas trop, mais aujourd'hui, parce qu'il a plu ces derniers jours, on sait qu'on va manquer d'eau et que la sécheresse annoncée, elle aura lieu vraisemblablement. Est-ce que vous êtes partisane, Madame Rabault, de mettre en place ici sur le département des réserves d'eau, des hyper bassines, comme on appelle ?
Moi, je suis favorable à une irrigation raisonnée. D'ailleurs, j'observe que les agriculteurs ont fait énormément d'efforts, puisqu'aujourd'hui ils mettent des sondes dans la terre. Vous pouvez déclencher l'irrigation avec votre smartphone, donc c'est extrêmement contrôlé. Il faut qu'on ait une vraie politique de l'eau, parce que ce que vous dites sur l'arrosage agricole, ça va aussi se poser en termes d'alimentation pour l'eau potable.
Tout à fait.
Quand on voit que le Tesco est à sec, ces questions-là, elles se posent. Nous sommes en mai. Donc là-dessus, la réflexion sur l'irrigation et sur la manière dont on est en capacité de sécuriser l'eau est une priorité aussi.
Ça, c'est une priorité que vous mènerez à l'Assemblée nationale, mais aussi au Conseil départemental.
On marche sur deux jambes, là, parce que les deux... Il y a ce que vous définissez comme politique de l'eau. Vous voyez, par exemple, les agences de l'eau, l'actuelle majorité avait prévu que les agences de l'eau ne subventionnaient plus les usines de traitement d'eau. Non-sens. Vous en avez une qui est fantastique, qui a été faite à Reignas-Villebrumier, qui a bénéficié de quasiment 60-70% de subventions, et d'autres comme Anaigrepelisse, où l'agence de l'eau ne veut plus subventionner. Et ça, c'est clairement le résultat de la politique de l'actuelle majorité.
Et sur les hyper-bassines, vous êtes favorable à la création des hyper-méga-bassines
Non, je suis favorable à une planification précise. Donc, vous appelez ça hyper-bassine ou je ne sais pas quoi. Moi, ce que je veux, c'est qu'on me dise où est-ce que... J'ai deux, trois exemples. Vous voyez, à Vazrac, vous avez un agriculteur bio qui fait des plants de tomates qui, au mois d'août, n'a jamais accès à l'eau. Lui, clairement, il faut qu'il puisse avoir accès à l'eau. Enfin, vous voyez, il y a des situations très particulières qu'il faut qu'on... Notamment, parce que c'est sur un versant en haut d'un coteau. Bon, donc toutes ces réflexions-là, elles sont posées et elles doivent vraiment être étudiées et pas qu'on attende 5 ans comme ce qui s'est passé là.
Madame Rabault, est-ce que vous avez hésité à vous représenter à l'Assemblée ?
Oui,
vous avez hésité ?
Mais oui, bien sûr, parce que... On se pose la question on se pose la question par rapport à soi, évidemment, parce que c'est un mandat qui est très engageant. Moi, j'y consacre beaucoup, beaucoup de temps. J'essaie de faire la moitié à Paris, la moitié en Tarn-et-Garonne. Je suis 6e députée sur 577, alors que je suis dans l'opposition. D'habitude, les premiers, ce sont ceux qui sont dans la majorité sur le nombre d'interrogations du gouvernement. Je fais partie des 25 premiers députés sur tout le travail fourni à l'Assemblée nationale. Ça, c'est nosdéputés.fr, donc c'est beaucoup de travail. Et malgré les 18 mois de confinement, de semi-confinement, j'ai fait 752 visites, 752 dans les 63 communes de la circonscription. Donc, c'est un engagement que j'aime, parce que j'adore ce département, j'aime beaucoup ses habitants. Mais c'est effectivement un engagement lourd et que je veux bien remplir. Voilà, je veux pas le faire à moitié. Je veux le faire jusqu'au bout de mes possibilités, y mettre tout le travail qui est nécessaire pour faire en sorte que l'émission arrive. Donc évidemment, on se pose aussi toujours la question, on se pose la question de l'équilibre politique, qui est de plus en plus compliqué dans notre pays. Et puis voilà, j'ai décidé de repartir avec Morgan Tellier, qui est le maire de Nègrepelisse, qui est quelqu'un... qui a toujours une énergie et des idées pour son territoire, qui est quelqu'un de très bien.
Madame Rabault, pour conclure, je souhaitais vous demander si vous, au département, est-ce que vous avez toute latitude, est-ce que vous avez envie aussi de mettre en œuvre des projets pour le département ?
Et oui.
Oui. Vous êtes
pourquoi,
travaillé...
vous posez, pourquoi vous me posez cette question sous-entendu? C'est quoi votre sous-entendu?
Est-ce que vous avez de bons rapports avec le président et avec toute l'équipe du département?
J'ai de bons rapports avec le président, l'équipe du département. Je m'occupe des finances. Et puis, une fois les élections passées, je me réoccuperai encore plus de Tarn-et-Garonne agriculture, qui est une petite pépite.
Et en cas de nouveau gouvernement, dans le cas où il y aurait un nouveau gouvernement, il y aura certainement un nouveau gouvernement à l'issue des élections législatives, il y a des chances que vous soyez au gouvernement n'importe
mais
lequel.
Mais j'espère vraiment non. que la gauche sera majoritaire.
Oui, et si la gauche est majoritaire?
Pas non.
Vous direz pas non. Merci beaucoup, Valérie Arbaud. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous, Caïdario.
Et à très bientôt.
À bientôt.
Merci Kader, on se retrouve la semaine prochaine, jeudi prochain, dès midi.
Merci beaucoup, au revoir.
Vous écoutez CFM, c'est l'heure des infos.